Je pense que ce n'est pas nécessairement une question de complication, c'est que c'est plutôt la question de savoir qu'en faire lorsqu'on est destinataire d'une parole de victime. Moi, je mettrais plus les choses sous cet angle-là et bien sûr aussi à travers la communication que nous efforçons de faire avec les évêques et les procureurs de la République sur ce protocole, c'est aussi d'inciter évidemment autour de nous à connaître l'existence de documents et à aider évidemment à la libération de la parole quand c'est encore nécessaire, même si depuis quelques années, cette libération a déjà été beaucoup aidée. Mais il y a sûrement encore mieux à faire.
Ce protocole n'est pas le premier en France, il y a eu d'autres exemples.
Il y a eu quelques exemples, pas si nombreux que ça, mais le premier a été fait à Paris entre le procureur de la République et l'archevêque. Mais en revanche, en ce qui concerne les protocoles applicables à tout un ressort de cour d'appel, comme c'est le cas aujourd'hui pour la cour d'appel de Rennes, le procureur général et ses procureurs de la République, ça par contre, à ma connaissance, ça n'est que le deuxième, le seul cas précédent étant celui de Grenoble. Ça ne fait pas disparaître les compétences propres qui restent celles des procureurs de la République. Donc chacun des 9 procureurs continue de gérer et de piloter les enquêtes qui concernent son ressort. Donc il ne s'agit pas du tout de mettre en place une espèce de superstructure qui va gérer les enquêtes de tout le ressort à l'échelle de Rennes par le procureur général, moi-même en l'occurrence. Pas du tout. Chacun reste dans ses compétences. Par contre, l'avantage de travailler à l'échelle du ressort, c'est d'avoir en quelque sorte une méthodologie commune qui soit applicable à tout le monde et que chacun ait sinon les mêmes réponses, en tout cas le même cadre de fonctionnement, le même cadre relationnel. C'est ça qui est important pour avoir de la cohérence. Et là, pour le coup, c'est mon rôle, pas de diriger les enquêtes, mais d'avoir une cohérence dans l'exercice des prérogatives judiciaires.
Et vous pensez que cette étape aujourd'hui franchie par l'Église avec le procureur, c'est une étape importante dans son cheminement vers plus de justice et plus de prévention?
Je pense que c'est une étape supplémentaire. Elle n'est sans doute pas particulièrement plus importante qu'une autre. C'est un processus général et ça vaut aussi pour l'autorité judiciaire. Nous aussi, ça nous permet de mesurer les différentes contraintes et les obligations auxquelles l'Église peut devoir faire face. Donc c'est en quelque sorte un progrès réciproque. Moi, je dirais que c'est une étape effectivement supplémentaire. On se donne une obligation de travail en commun, de lisibilité réciproque et de fluidité dans l'échange de l'information. On ne part pas de rien et on n'a pas aujourd'hui encore abouti. Il y aura encore du chemin à faire et d'autres étapes à franchir certainement. Mais au moins, on marque une volonté de travailler en commun de façon lisible et pas pour notre bénéfice personnel, mais pour le bénéfice de nos concitoyens et des potentielles victimes d'infractions sexuelles sur mineurs, entre autres.